Bonsoir, bien chers amis. Eh bien, nous passons ce soir dans la seconde moitié de notre pèlerinage sur la route de gratitude. Très bref rappel de ce que nous avons vu les deux premières semaines. La première, nous avons parlé de la puissance transformante de la gratitude. En quelques mots, nous avons vu que rendre grâce suscite la grâce et attire même la grâce. La semaine dernière, nous avons vu les quatre niveaux de gratitude, mais comme un chemin de progression, bien sûr. Comment nous pouvons nous entraîner à demeurer dans la gratitude, même au milieu de nos contrariétés quotidiennes. Nous avons identifié, et c'est important, les ennemis de la gratitude, les regrets du passé, le remords, la peur de l'avenir. Et puis, expression chère au père Richard, comment adopter la gratitude-attitude avec trois attitudes fondamentales. Regarder vers la lumière, le Christ, faire mémoire comme Marie, et Séverine rappelait à l'instant ce bel exercice que j'espère nous avons tous pu faire cette semaine sur les 15 moments de notre vie où nous pouvons voir que Dieu a agi avec nous, et puis sous l'action de l'Esprit, goûter le moment présent. En une phrase, nous avons vu comment nous pouvons agir avec Dieu pour cultiver chaque jour la gratitude. Ce soir, nous allons développer un thème très rapidement abordé la semaine dernière quand on parlait justement des ennemis de la gratitude, c'est la part d'illusion dans la course au bonheur, vous voyez, cette recherche du toujours plus. Et on va surtout voir que la gratitude est un remède à ce matérialisme et au monde de l'hyperconsommation qui nous est offert aujourd'hui. Dans une société, il faut bien le dire, qui souvent nous survend la quête du plaisir comme soi-disant clé du bonheur. Saint Paul fait bien de nous dire « Les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières. » Ils descendent d'auprès du Père. Et c'est vrai qu'on peut faire un premier constat dans notre société du mérite, de l'exaltation de l'autonomie, du règne de l'hyperconsommation, du pouvoir, de l'argent, etc. Il n'y a plus guère de place pour la gratuité et donc pour la gratitude. Pourtant, et c'est ce qu'on va travailler et voir aussi ce soir, la gratitude est nécessaire à la dynamique du don qui nous promet la joie profonde qui l'accompagne. Alors voyons justement dans ce premier point la gratitude comme moteur de l'amour-don. Gratitude comme moteur de l'amour-don. Dans un premier point, on va partir de quelques considérations philosophiques, mais je vous rassure pas trop, j'ai eu 7 ans philo de toute façon, donc ça va être relativement compréhensible. La dynamique du don, elle est marquée par deux pôles, la réception et la donation. Mais on peut y ajouter un terme intermédiaire, il faut y ajouter intermédiaire, l'appropriation. Et la dynamique du don devient, comme dans la chanson de Jacques Brel, une valse, un rythme à trois temps. La réception, donc, du don, c'est le don reçu, le don pour moi. L'appropriation de ce don, le don intériorisé, qui rend possible la donation, le don offert, le don de soi. Un exemple à la fois tout simple mais fondamental, ma vie reçue de Dieu, si je me l'approprie, je peux évidemment en faire un don, un retour vers Dieu et vers les autres. On peut donner une image aussi qui, plus qu'un simple canal, ce serait elle est plus jolie en plus, un lac de montagne, vous voyez, qui est rempli en amont et qui se déverse par débordement en aval. Dans cette dynamique du don, sur laquelle on va revenir bien sûr, deux dysfonctionnements qu'on peut avoir présents à l'esprit pour les écarter tout de suite. Le don par défaut, c'est-à-dire en fait c'est le narcissisme pathologique hein, quasiment. Je donne pour être vu. Ça nous renvoie un peu aux pharisiens que Jésus fustige sur les places publiques. Et le don par excès, c'est-à-dire se donner de manière non discernée, au-delà de nos forces, qui nous mène à nous brûler les ailes, quoi. C'est le burn-out. Une fois qu'on a parlé un peu de cette dynamique du don, donc réception, appropriation, donation, trois temps, ça vous rappelle nécessairement, j'espère, quelque chose. Le deuxième point que nous pouvons voir, c'est que la gratitude est le moteur du don. Pascal Hyde emploie cette expression dans son ouvrage, Le moteur du don, il dit aussi « la gratitude est l'âme secrète du don ». Et on voit bien, et je trouve ce mouvement assez génial, qu'avec ces trois moments, la gratitude englobe en fait la dynamique à trois temps du don. Le R qui est reconnaître la gratitude, reconnaître que le bienfait est un don gratuit fait par un autre, la réception, c'est la réception, ça correspond à la réception du don, reconnaître, réception du don. Ressentir consiste à éprouver, mon deuxième R, à toucher l'amour qui a animé le donateur. Et ça, dans la dynamique du don, ça correspond très précisément à l'appropriation du don. Et puis, on l'a vu, le troisième, remercier, se mettre en mouvement, engager ma volonté libre, eh bien, dans la gratitude, c'est remercier. Dans la dynamique du don, c'est ce qui correspond au mouvement de donation que je vais être capable d'engager, d'initier. Et donc, c'est clair, quelque chose ici de fondamental tout de même dans notre parcours, c'est que la gratitude, travailler la gratitude, promeut des comportements altruistes, promeut notre capacité tout simplement à donner. C'est ça la cascade du don. En fait, on peut même dire qu'il y a un lien tout à fait direct entre la vertu de gratitude qui me fait entrer et ce qui me fait entrer dans la mécanique du don gratuit. Et Jean Guilhem nous disait dans la conférence d'octobre, la gratitude est toujours une réponse à la gratuité. Et cette intimité m'évoque le psaume 84. Quand amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Il y a vraiment, vous voyez, ce mariage de la gratitude et de la dynamique du don qui est absolument essentiel. Pourquoi ? Eh bien, c'est là que c'est génial, c'est que cette gratitude comme moteur de la dynamique du don nous permet tout simplement de réaliser cet appel que nous fait le Christ, que nous donne le Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cette gratitude comme moteur du don, elle va bien sûr, évidemment, nourrir ma relation à Dieu. Saint Matthieu nous dit, il est écrit dans Saint Matthieu, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Et non seulement la gratitude est le moteur de la mécanique du don, mais elle est aussi celui de la relation, de ma relation entre l'homme et Dieu. En effet, dans ce mouvement vis-à-vis de Dieu, plus je vais prendre conscience de la grâce du salut que j'ai reçu de l'amour du Christ, plus, en toute logique, je vais en être bouleversé. Saint Paul dit dans la deuxième aux Corinthiens, « L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. » Et plus je vais me laisser saisir par ce don gratuit, et il faut bien le dire, totalement fou de Dieu, plus je vais être nécessairement, intérieurement, pressé de redonner. C'est ce que dit redonner par la prière, la louange, l'évangélisation et par le don que je peux faire de moi-même à Dieu et aux autres. C'est ce que dit le psalmiste quand il dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Ce « comment » veut dire ici clairement « j'en ai envie », exactement comme lorsque Marie dit à l'ange « comment va-t-il se faire ?» Elle veut le faire. Et j'aime beaucoup cette phrase de Benoît XVI quand il était encore cardinal Ratzinger, où pour illustrer cette mécanique, il dit « être chrétien signifie essentiellement passer de l'être pour soi à l'être pour les autres. » Passer de l'être pour soi à l'être pour les autres. Et on voit bien que si je suis capable de passer à l'être pour les autres, je serai aussi capable de passer à l'être pour le tout autre qui est Dieu. Et le pape François le dit un peu différemment, mais c'est la même idée. Dans sa dernière encyclique, il nous a aimés. Nous n'atteignons pas notre pleine humanité si nous ne sortons pas de nous-mêmes. Et nous ne devenons pas pleinement nous-mêmes si nous n'aimons pas. Voilà, donc je trouve qu'il y a ici un vrai cadeau de ce parcours, puisque la vertu que nous sommes en train de travailler de gratitude va nous rendre capables d'entrer dans cette dynamique du don. Alors à l'inverse, on en parlait en introduction, évidemment que l'hyperconsommation et le mirage de l'hyperconsommation est une impasse. Donc c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Et peut-être d'abord décrire ce qu'on appelle le phénomène de l'hyperconsommation. En fait, il se passe aussi en trois actes, mais vous allez voir, beaucoup moins vertueux que ceux de l'homme reconnaissant. L'homo consumericus, en bon latin, prend l'objet. Vous voyez, le premier geste, c'est de prendre plutôt que de recevoir. Le deuxième, c'est de consommer le plaisir lié à l'objet plutôt que de goûter. Et le troisième, c'est de jeter l'objet quand j'en ai plus besoin, plutôt que de remercier et d'engager une dynamique. Et c'est vrai que dans notre monde, parfois on en arrive ou on risque d'en arriver à tout consommer, la nourriture, les objets matériels, la culture, les relations amicales, la relation à soi-même et même la spiritualité si on en croit parfois toutes les formules ou propositions de développement personnel qui peuvent être proposées ici ou là. Sans doute parce que notre monde nous fait subir une injonction assez forte, une injonction principale qui est la maximalisation du plaisir et qui peut se traduire par une pure logique consumériste en fait personnelle. Je cherche uniquement mon plaisir, donc je prends l'objet, je consomme le plaisir et puis je jette. Ça vaut pour les biens matériels, on voit bien les tonnes d'emballages qu'on jette quand on va faire un plein de courses, mais ça vaut malheureusement aussi pour nos relations humaines. On voit aussi le nombre de couples qui se séparent à la première contrariété, mariés ou pas mariés d'ailleurs, parce qu'en fait ça gâche leur plaisir et qu'on ne peut plus passer ce cap-là. Autre exemple qu'on peut donner, certains tiennent absolument à aller en soirée ou aller à un dîner, vous voyez, mais plus pour rencontrer les personnes ou plus pour donner, voire même pour recevoir, mais en fait simplement pour aller à un dîner ou à une soirée. Ça peut être vrai aussi avec un voyage annuel qu'on fait dans un très beau pays, mais pas tellement pour le pays, juste pour cocher la case. On est un peu dans ce monde de cocher des cases. Et on en arrive finalement à ce vers que je trouve terrible de Musset, le poète, « Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ». Les conséquences, elles vont évidemment nous mener dans différentes formes de tristesse et un vide intérieur. Tristesse et les vides de l'hyperconsommateur, c'est un deuxième point. Alors, entendons-nous bien, le plaisir est bon. Dieu a créé le plaisir et il l'a inscrit dans la création. Ce sur quoi nous pouvons travailler et être vigilants, c'est la tyrannie du plaisir. Vous savez, cette oukase, il faut profiter, il faut s'amuser, t'as le droit d'être heureux. Voilà, puisque en fait on risque de verser dans une quête éperdue du plaisir, alors que notre cœur, le cœur humain, est fait pour l'infini. Et on peut, avec Pascal Hyde, identifier 6 formes de tristesse. Vous savez que dans ce parcours, on aime bien identifier toujours les ennemis ou les travers pour justement ne pas y tomber et les connaître. D'abord, un plaisir au goût de cendre. En recherchant en permanence son contentement personnel, l'hyperconsommateur n'est jamais rassasié, en fait. Et je cite Pascal Hyde, « Plus je me centre sur mon plaisir, plus celui-ci s'évanouit et moins il m'épanouit. » Et puis l'incapacité à supporter la frustration. Et on voit bien que la publicité joue en permanence sur ça. Il vous manque ça, il vous faut ci, il vous faut ça. Et finalement, on risque même d'en arriver à l'incapacité à supporter notre propre finitude terrestre. Je ne sais pas si vous connaissez ce docteur qui s'appelle Laurent Alexandre, qui fait souvent des vidéos. Pour lui, les progrès scientifiques nous permettront un jour de vivre 1000 ans. Mais quelle horreur! Et vous voyez, pour moi, ça, c'est vraiment le signe de notre incapacité à supporter la frustration parce qu'on oublie le mécanisme de la gratitude et du don. Troisième tristesse, l'accoutumance. On sait bien que pour atteindre un même niveau de plaisir, de jouissance, diraient les psys, je dois toujours augmenter les doses. Et donc, ça me mène dans un processus sans fin. Qui dit accoutumance dit dépendance également. Dépendance qui peut d'ailleurs susciter une grande culpabilité, qui est une autre forme de tristesse. Tristesse de la jalousie également. Mais ça, je passe rapidement, c'est-à-dire de se comparer aux autres et d'être triste de ne jamais avoir comme les autres ou de ne pas être comme les autres. Mais on en reparlera plus la semaine prochaine. Et puis, tristesse non des moindres, la tristesse de l'acédie. L'acédie, on peut définir comme un manque de soin, vous voyez, d'abord dans sa vie spirituelle, on laisse un peu tomber, et puis dans les autres domaines, ça induit une perte de sens, un vide existentiel, et puis c'est là-dedans que peut se loger le démon de midi et certains péchés, comme la gourmandise, la luxure. Alors peut-être un premier exercice pour ce soir ou pour cette semaine, c'est de se dire, mais où sont mes principaux lieux de consommation et d'hyperconsommation ? Dans ma vie, le loisir, les amis, le sexe, la nourriture, l'alcool, les livres, etc. Moi, si je me lance, je peux vous avouer de temps en temps des achats un peu compulsifs, vous voyez, pas vraiment maîtrisés, dont j'ai pas besoin. Heureusement, ma chère épouse et ma fille veillent, donc j'essaie de guérir de ça. Vous voyez, comme si acheter était exister, mais on voit bien que c'est un leurre. Avec mon ami Pep, dont je vous ai déjà parlé, Pierre-Edouard, nous pouvons aussi avoir une petite tendance à l'hyperconsommation spiritueuse plutôt que spirituelle. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à purifier. Mais je ne te jette pas la pierre, Pierre-Edouard, c'est ma faute. Hein. Voilà. Donc, faisons ce travail cette semaine. Alors, ce qu'il faut que nous ayons présent à l'esprit aussi, c'est des tentatives qui sont insuffisantes pour échapper à ce vide de l'hyperconsommateur. Et en fait, c'est quand je vais ne prendre qu'une étape du processus ou de l'acte de gratitude, mais qu'on nous promeut en tant que tels comme des vraies voies de salut dans notre société. La réussite, par exemple, aujourd'hui, valeur clé. Mais en fait, quand je parle de réussite, j'ai juste la dimension recevoir. Je n'ai pas le reste. Je n'ai pas ressentir, je n'ai pas remercier. La quête du moment présent, avec un espèce de bouddhisme un peu mal occidentalisé, vous voyez, je ne fais que chercher à prendre soin de moi. Ou la quête de l'engagement à tout prix, jusqu'à épuisement, se donner jusqu'à se brûler, on en parlait. Donc on voit bien que ces trois voies qui sont mises en avant pour elles-mêmes dans notre monde, ça ne fonctionne pas, elles sont insuffisantes en elles-mêmes à nous mettre dans ce mécanisme de la gratitude, parce qu'elles n'épousent pas l'ensemble de la dynamique et de la dynamique du don. Donc, c'est à ce stade, et c'est le troisième point de ce soir, qu'on comprend mieux, bien sûr, la gratitude, mais ça on l'a déjà dit, n'est pas un remède miracle, mais on voit bien que c'est tout simplement le bon chemin à suivre pour se débarrasser de ce costume de l'hyperconsommateur. Et donc ce que nous pouvons faire, et ça fait partie des exercices proposés cette semaine, c'est cultiver la gratitude, encore une fois, et cette fois pour lutter contre les compensations et les addictions. Chesterton, dans son livre sur Saint François d'Assise, dit « Toutes les bonnes choses apparaissent encore meilleures quand on les voit comme des cadeaux. » Première chose à faire, que nous pouvons faire, c'est travailler positivement sur les causes de certaines déviations. Cultiver la gratitude, c'est recouvrer, on l'a vu, la joie de la dynamique du don, et donc réorienter le désir infini qui habite nos cœurs dans le bon sens. Nos cœurs sont faits pour donner et se donner. Donc on peut traiter en amont certaines causes des comportements compulsifs dont on parlait à l'instant, de l'hyperconsommateur, parce que c'est les achats, la nourriture, les écrans, les réseaux sociaux, plus grave la pornographie, tous ces phénomènes qui nous font échapper à ce mécanisme du don. Alors bien sûr, il ne faut pas parfois exclure le recours simultané de la pratique de cette vertu de la gratitude avec d'autres décisions. On peut prendre des décisions fortes de sevrage de téléphone, par exemple. Mais on voit bien que cultiver la gratitude est un moyen, et peut-être même le moyen positif, à mettre en œuvre pour réussir à se débarrasser des oripeaux de l'hyperconsommateur. Et je dirais qu'avec l'avant qui a commencé, notre parcours gratitude tombe à point nommé, puisque nous nous préparons à accueillir à nouveau la venue de celui dans notre monde, de celui qui est le don total pour chacun de nous. Et c'est effectivement en cultivant la gratitude que nous allons pouvoir passer de l'hyperconsommation à l'hypergratitude. Et on peut ici s'entraîner à engager une forme de rééducation par l'exercice quotidien de la gratitude. Alors je vais ici vous donner ce que j'appelle 10 bonnes pratiques qui sont dans l'ouvrage de Pascal Hyde pour comme ça essayer d'engager un nouvel art de vivre. Vous l'avez dans vos feuilles, d'ailleurs Astrid me disait que vous n'avez pas tous pris la feuille qui se trouve à l'entrée, donc n'hésitez pas. Vous avez ces 10 points dans vos feuilles, donc vous les retrouverez. D'abord, réapprendre à prêter attention aux choses et aux personnes qui m'entourent et qui ont leur propre consistance, c'est-à-dire retrouver le sujet ou l'objet avant tout pour ce qu'il est, pour la manière dont il existe, et non pas pour ce qu'il va m'apporter ou pour pas ce que je veux en faire, vous voyez. C'est-à-dire reconnaître la consistance réelle de l'objet. Ça peut passer par rééduquer son regard, travailler l'écoute. Paul Beauchamp dit, avant de remercier, reconnaître ce bien que j'ai et que je ne sais pas voir. Prêter attention aux choses. Deuxième chose que nous pouvons faire dans ce monde un peu rapide, même les gouvernements sont rapides maintenant, prendre le temps de mastiquer, par exemple, la nourriture, prendre le temps de regarder en détail un paysage, de lire un texte, de discuter du scénario d'un film plutôt que de fermer l'ordinateur avec mon épouse si je l'ai regardé avec elle. Vous voyez, prendre le temps, savoir ralentir. Autre point, c'est le troisième, on en a déjà parlé ici, corriger son vocabulaire. Au lieu de dire je profite de ta présence, je profite de ce moment, je goûte à ta présence, je reçois ce temps comme un don. Quatrième chose, pratiquer la gratitude dans les petites choses où j'ai pris une habitude de consommateur, précisément. pour transformer l'objet, vous voyez, ce bien que je reçois comme un objet de consommation, en un don. Et il y a une très belle chose à faire sur ça, c'est par exemple la pratique du bénédicité. Hein, et puis ça permet de se dégager un peu de la culpabilité, de rendre la nourriture que nous recevons à Dieu. Vous avez une belle histoire aussi d'un moine et d'un gâteau dans vos feuilles. Et une autre histoire d'ailleurs sur le bénédicité, j'y pense, c'était un journaliste qui se promenait dans les Pyrénées. Alors un journaliste pas du tout catholique, vous avez un média pas du tout catholique, même plutôt anti-catholique que je ne citerai pas. Bon, mais quand même, il appliquait un peu le premier point, vous voyez, il prêtait attention aux choses, à la beauté du paysage. Oh, tiens, ces sapins sont beaux. Survient un énorme ours des Pyrénées, manifestement très affamé, il bave et il se met à poursuivre le journaliste. Donc le journaliste prend ses jambes à son cou, court, saute des talus, des bosses, des fossés, mais évidemment, ce qui arrive tombe, il se retrouve sur le dos comme ça, face à l'ours, qui met ses deux énormes pattes au-dessus de lui, et la journaliste écrit « Oh mon Dieu !» Et là, tout s'arrête. Le monde se fige. Et du ciel, une voix dit « Oui, mon enfant ?» Alors le journaliste dit, qui est un peu gêné, il dit « Écoutez, monsieur, enfin mon père, enfin seigneur, enfin je ne sais pas trop, enfin, je ne peux décemment pas vous demander de devenir catholique à cet instant-là, ma vie ne me le permet pas, mais peut-être vous pouvez rendre l'ours catholique. » Et la voix dit « Ainsi soit-il. » Et le monde reprend vie, l'ours joint ses deux énormes pattes et dit « Seigneur, bénissez ce repas. » Voilà, mais c'est une très belle chose. Le bénédicité, blague à part, nous le faisons souvent en famille et c'est même une prière qu'on peut étendre au-delà du moment de festivité. Cinquième chose que nous pouvons faire, tout en se gardant des dons manipulateurs, il y en a malheureusement parfois, mais évitons le soupçon systématique, finalement qui transforme tout gratuit en dû ou en dette. Il veut forcément obtenir quelque chose de moi s'il me donne ça. Non, l'amour gratuit existe bel et bien. Ça rejoint le point 1 sur notre regard. Sixième point, travailler l'estime de soi. Oui, chacun d'entre nous est digne de recevoir un don gratuit. Septième, reconnaître davantage la gratuité du don, précisément. D'abord en le formulant intérieurement. Tiens, mon ami, là, pour me rendre ce service, il a consacré beaucoup de temps alors que je sais qu'il est très occupé. Et puis, détailler ce don, si je dois exprimer le remerciement. Merci de t'être rendu disponible, je sais que ça t'a coûté parce que t'es overbooké. Jean-Guilhem Xéry disait, c'est passer du merci social au merci gratitude. Le huitième, c'est se déshabituer de l'habitude. Voilà, pour pouvoir à nouveau se laisser gagner par l'émerveillement. Peggy dit une chose très forte, il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Donc, émerveillons-nous, perdons nos habitudes face à la beauté, la création, la complexité, la beauté du corps. Retrouvez un peu, en fait, le sens du mystère. Et puis, neuvième chose, être davantage attentif à nos émotions. Notre foi vit aussi de nos émotions. L'émotion qui me traverse, la joie, la gratitude, précisément, la reconnaissance. Et aussi à travers leur retentissement corporel, qui peuvent être des larmes, par exemple. Et puis enfin, et surtout, en tout cas le dernier, mais dont les moindres, s'exercer régulièrement à la louange gratuite de Dieu, notamment à travers le chant, et merci à nos musiciens qui nous permettent de le faire avant chaque soirée, en veillant à être centré sur Dieu, la source de tout bien, voilà, plutôt que sur nous-mêmes. Saint Paul a de belles citations sur ça, dans la lettre aux Colossiens par exemple, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et il le dit un peu différemment dans la lettre aux Éphésiens, dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. Donc pour nous résumer avant notre temps d'échange, la gratitude est le moteur de l'amour don, et quel cadeau! Puisqu'elle se superpose, mais qu'elle a la vertu de gratitude, se marie, se fond dans la dynamique du don et nous rend capable de cette dynamique du don à Dieu et aux autres. A l'inverse, nous avons vu que l'hyperconsommation me fait oublier la réalité propre des choses, de l'objet, des sujets, ce qui me conduit nécessairement dans une des tristesses de l'hyperconsommation. Mais heureusement, cultiver la gratitude me permet d'adopter, avec tous ces petits efforts, un art de vivre qui va restaurer la joie en moi en me tournant vers Dieu et vers les autres. bons échanges.